Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la mission de l'Église, l'évangélisation. Pourquoi l'Église existe-t-elle? Quelle est sa fonction dans ce monde? Il a été observé que le Christ ne nous prend pas au ciel directement des eaux du baptême, c'est-à-dire dès que nous sommes sauvés, car il y a un travail que nous devons faire ici-bas. Mais quel est ce travail? Quelle est au juste la mission de l'Église? Comme c'est généralement le cas en ce qui concerne les différents aspects de l'Église, beaucoup d'hommes comprennent mal sa raison d'être et le travail qu'elle doit accomplir. Ceci est vrai non seulement pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église, les croyants eux-mêmes se trompent souvent à ce sujet. Les non-chrétiens, ainsi que les membres, attendent parfois de l'Église ce qui n'est pas vraiment de son devoir. Et les conducteurs de l'Église permettent parfois que l'Église soit détournée de sa vraie mission, afin de poursuivre d'autres objectifs. L'Église n'est pas, par exemple, une organisation politique. Il est vrai que ses membres ont parfois le devoir de parler contre l'injustice et de condamner le péché qu'ils voient dans la société où ils vivent. Mais la parole de Dieu n'enseigne pas à l'Église de chercher à s'impliquer dans la politique d'une nation, en s'alignant à tel ou tel parti ou chef politique. Elle ne cherche ni à renverser, ni à maintenir ceux qui sont au pouvoir. Elle enseigne simplement le respect des autorités et l'obéissance aux lois civiles. La Bible ordonne en Romains chapitre 13, versets 1, 2 et 6, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. D'autres passages enseignent le même principe. Le gouvernement de l'époque était l'Empire romain, dont les chefs étaient des hommes immoraux et qui ont cherché à détruire le christianisme. Malgré cela, les chrétiens n'ont pas cherché à faire tomber ce gouvernement. Ils ont laissé cela dans les mains de Dieu. Le vrai chrétien ne fera donc partie ni d'une rébellion, ni d'une milice. La mission de l'Église, une mission qui réclame tout son zèle, n'est pas politique. Le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. L'Église n'est pas une organisation éducative. Il est vrai que des chrétiens s'organisent souvent pour promouvoir l'éducation, en créant des écoles. Les écoles chrétiennes sont souvent d'une très grande valeur, puisqu'elles essayent généralement d'enseigner aux enfants non seulement les sujets comme le français, les mathématiques, l'histoire et toutes les autres matières, mais aussi la parole de Dieu. Elles donnent ainsi à la jeunesse une base de foi solide et de moralité qui lui sert de guide durant toute la vie. Il est aussi vrai que le désir d'apprendre à lire afin de pouvoir connaître personnellement les Écritures a motivé de nombreux croyants à s'instruire, de telle sorte que l'arrivée du christianisme dans un lieu a souvent été marquée par des progrès sur le plan de l'éducation et l'alphabétisation. Mais la création et l'administration des écoles n'est pas le travail de l'Église. Ce n'est pas sa mission. L'Église n'est pas une organisation créée pour résoudre des problèmes sociaux. Encore, on constate souvent que des membres de l'Église sont très engagés dans toutes sortes de bonnes œuvres. Des efforts d'aider les gens à surmonter les addictions à la drogue ou à l'alcool, à trouver la paix dans leur foyer, à encadrer les jeunes pour qu'ils mènent une vie ordonnée et utile aux autres, etc. L'influence de l'enseignement donné dans l'Église encourage toutes ces activités louables. Mais encore, l'Église n'existe pas pour le social. Elle a un autre but. Enfin, l'Église n'est pas une organisation humanitaire. Son objectif principal n'est ni l'amélioration des conditions de vie, ni la fin des souffrances physiques des hommes. Une fois de plus, précisons que l'Église manifeste l'amour et la compassion de Dieu. Elle vient au secours des personnes dans toutes sortes de difficultés. Les malades, les orphelins et les veuves, les victimes de la sécheresse, de la famine, des inondations, des guerres et d'autres désastres. Ce sont des œuvres de bienfaisance tout à fait à l'ordre du jour pour l'Église. Mais elle n'est pas du tout une organisation semblable à la Croix-Rouge, le Croissant Rouge ou Médecins Sans Frontières. Par compassion, elle s'engage naturellement dans des efforts pour soulager les souffrances des autres. Mais ce serait une erreur que de supposer que la plus grande partie des ressources de l'Église devrait être consacrée à ce genre d'efforts. Examinons donc les Écritures pour savoir quelle est la volonté de Jésus-Christ, le chef de l'Église, en ce qui concerne les activités sur lesquelles son Église doit concentrer ses efforts. Plusieurs passages du Nouveau Testament présentent l'Église comme étant le corps de Christ. Paul dit en Éphésiens 1, versets 22 et 23, que Dieu a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Quelques chapitres plus tard, il dit « Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Éphésiens 5, verset 23. En Colossiens 1, verset 18, il dit « Christ est la tête du corps de l'Église. » Aux chrétiens de Corinthe, il écrit « Vous êtes le corps de Christ. » Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, verset 27. Quand Jésus était sur la terre, il avait bien sûr un corps physique comme le nôtre. Il s'est servi de son corps en accomplissant son travail dans le monde. Aujourd'hui, Jésus a un corps spirituel sur la terre. Un corps dont il se sert en faisant son travail. Ce corps, comme nous venons de le voir, c'est l'Église. La mission de l'Église est donc étroitement liée à la mission de Jésus lui-même. Jésus a fait beaucoup de bonnes œuvres pendant sa vie sur la terre, cela est certain. Il a guéri de nombreux malades, il a nourri ceux qui avaient faim, et il a même ressuscité des morts. Mais quelle était la raison pour laquelle il est venu? Quelle était sa mission? Nous n'avons pas besoin de deviner, la Bible nous donne la réponse plusieurs fois. L'apôtre Paul l'identifie dans les termes les plus clairs en 1 Timothée 1, verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Cela s'accorde avec ce que Jésus lui-même dit de sa mission en Luc 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Deux choses étaient nécessaires pour que cet objectif soit atteint. 1. Il fallait que Jésus donne sa vie comme le sacrifice pour les péchés des hommes. Il dit en Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Deuxièmement, il fallait aussi que la parole de salut soit prêchée aux hommes. C'est ainsi que Jésus dit en Luc 4, verset 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » La mort de Jésus ne sert à rien si les hommes n'entendent pas et ne croient pas à ce message de salut. L'Église, étant le corps de Christ, poursuit la même mission pour le salut éternel des hommes. Bien sûr, nous ne pouvons pas offrir nos vies comme sacrifice pour le péché comme Jésus l'a fait. Il a pu servir de sacrifice pour le péché, étant lui-même parfaitement pur et innocent. Nous sommes des pécheurs. D'ailleurs, son sacrifice est absolument suffisant pour purifier tous ceux qui viennent à lui pour le pardon. Selon Hébreux 10, verset 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Mais l'Église peut et doit continuer l'œuvre de Jésus en proclamant la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus pour nous sauver tous. Le corps spirituel de Christ, qui est son Église, tout comme son corps physique, joue un rôle indispensable dans le plan de Dieu pour réconcilier les hommes pécheurs à lui-même et leur accorder la vie éternelle. Plusieurs passages bibliques confirment ce que nous venons de dire concernant la mission de l'Église. Considérez par exemple trois textes où le Christ ressuscité confie à ses disciples la tâche de prêcher la bonne nouvelle à tout être humain, dans toutes les nations du monde. En Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En Marc 16, versets 15 et 16, Jésus ordonne « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Encore, en Luc 24, versets 46 et 47, Jésus dit aux disciples « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Les apôtres ont très bien compris la mission qu'ils avaient reçue. Tout au long du livre des Actes des apôtres, nous voyons des passages comme chapitre 5, verset 42, qui dit « Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Ils ont fait ainsi malgré la persécution dont ils étaient souvent l'objet. Mais il est important de souligner que cette mission n'appartenait pas uniquement aux 12 apôtres de Jésus. Tout chrétien a sa part dans l'accomplissement de l'évangélisation du monde. En Actes 2, nous lisons « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Les apôtres sont donc restés dans la ville, mais ceux qu'on appellerait peut-être les chrétiens ordinaires furent dispersés par la persécution. Prêtez attention maintenant au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Il est donc clair que non seulement les apôtres, mais tous les chrétiens acceptaient la responsabilité de répandre la parole de Christ. Après tout, Jésus avait dit aux apôtres d'enseigner aux disciples d'observer tout ce qu'il avait prescrit, y compris, sans aucun doute, l'ordre de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. L'évangélisation n'est pas l'affaire de seulement quelques individus dans l'Église. C'est l'objectif que vise le corps de Christ dans son ensemble, et chacun de nous individuellement. Non seulement chaque membre de l'Église doit partager l'Évangile avec ceux qu'il côtoie dans sa vie quotidienne, mais il doit aussi donner de ses moyens pour envoyer la parole de Dieu plus loin. Plusieurs passages du Nouveau Testament montrent que les premiers chrétiens faisaient cela. En 3 Jean 7 et 8, par exemple, l'apôtre félicite un chrétien du nom de Gaius de ce qu'il avait pourvu au voyage de certains évangélistes. Il dit « C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Il y a beaucoup d'organisations dans le monde qui ont été créées pour réaliser des œuvres très nobles. Il y en a qui améliorent la santé ou les conditions de vie sur le plan physique, d'autres qui contribuent à la paix entre les hommes, et d'autres encore qui servent l'humanité de diverses manières. Ce sont de bonnes œuvres auxquelles les chrétiens participent. Mais l'Église de Jésus-Christ est la seule organisation au monde qui est chargée par Dieu lui-même de prêcher l'Évangile à l'humanité. Aucune autre œuvre ne peut se comparer à celle-ci en importance. Elle est la seule qui sauve de la condamnation et la misère éternelle, et qui rend possible pour tous le bonheur sans fin dans la présence du Créateur de l'univers. Que Dieu préserve son Église de se laisser détourner de cette mission glorieuse.
Je voudrais chanter l'histoire d'un amour si beau, si grand. Jésus a quitté la gloire pour mourir comme un brigand.
Oui, je veux
chanter l'histoire
de Jésus,
mon rédempteur.
Il quitta
son ciel de gloire.
Il est mort
pour chanter ses louanges jusque dans l'éternité. Je le dirai même aux anges dans la céleste cité.
Oui, je veux chanter l'histoire
de Jésus,
mon Rédempteur.
Il quitta
son ciel de gloire.
Il est mort pour moi, pécheur.